La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. En 1712, dans son essai sur le génie et les écrits de Shakespeare, John Dennis affirme que l'auteur de Hamlet et du Roi Lear, mort près d'un siècle plus tôt, est l'un des plus grands génies que le monde ait vu. Et si, 300 ans plus tard, cela nous semble une affirmation très banale, cela participait à l'époque d'une véritable révolution, et même, pourrait-on dire, d'une sorte d'épidémie de génies, morts ou vivants. C'est en effet à ce moment précis, au début du XVIIIe siècle, que sont nés les génies, ou plutôt l'idée moderne de génie, celle dont Albert Einstein incarne aujourd'hui encore la figure exemplaire, au point que ce nom propre soit devenu synonyme de génie lui-même. Dans « Fureur divine », un livre magistral, passionnant, l'historien américain Darren McMahon nous explique comment et pourquoi sont nés les génies, y compris parfois de manière posthume, comme Shakespeare, que France Culture a choisi de célébrer tout ce week-end. Darren McMahon, bonjour.
Bonjour.
Fureur divine, c'est le titre de ce livre sous-titré Une histoire du génie qui paraît dans la belle collection d'Antoine Lilti, L'épreuve de l'histoire, aux éditions Fayard. Je disais, ce week-end, nous célébrons à France Culture William Shakespeare. Nous célébrons, et le mot renvoie à un imaginaire religieux qu'on trouve dans le titre même de votre livre sur l'idée de génie, Fureur divine. Parce que le lien avec la religion est extrêmement important pour comprendre la naissance de la conception moderne du génie, ce qui fait l'objet essentiel, je dirais, de votre recherche, même si elle va chercher cette naissance beaucoup plus en amont et dès l'Antiquité. Peut-être on peut commencer tout simplement par là aussi, par ce choix que vous avez fait, Darren McMahon, de ne pas simplement travailler sur la naissance du génie moderne, ce moment du XVIIIe siècle où on découvre, y compris des génies morts il y a longtemps. Je parlais de Shakespeare, mais ce sont aussi des génies de l'Antiquité, par exemple. Et pourquoi vous avez fait le choix de remonter justement jusqu'à l'Antiquité, alors même que la notion de génie ne veut pas du tout dire la même chose?
Tout à fait. Bon, il faut considérer la génération avant la naissance, il me semble. Et même si, comme vous avez dit, avec raison, que le génie est né au XVIIIe siècle, il y a une longue avant-histoire qui est très importante, était très importante pour les gens au XVIIIe siècle. Le titre de mon livre, par exemple, « Fureur divine », vient de Platon. Et son idée que, en fait, l'inspiration est une infusion des muses ou des dieux, que ça vient, les grandes idées viennent d'autre part. Et c'est une idée avec une longue histoire, ça remonte dans la Renaissance, et même au XVIIIe siècle, il est important.
Alors, vous consacrez donc un chapitre à ce moment de l'Antiquité, avec, vous citiez Platon, bien évidemment, mais aussi Aristote, puis aussi l'Antiquité romaine. À tous ces moments, au fond, cette idée de génie se trouve déclinée selon des formes relativement proches. Comment on peut les décrire à l'époque?
D'accord, bon, il y avait cette idée que je viens d'expliquer de Platon, mais il y avait aussi, comme vous avez dit, une idée de Aristote, ou ses adeptes, qui considéraient le génie comme une force naturelle, innée, un mélange des humeurs. Et en fait, il parlait beaucoup de bile noire. Et l'idée était que les gens de prominentes, des grands esprits, avaient une surabondance de bile noire qui les rendent bons et intelligents, mais aussi en même temps instables, oui, peut-être fous à la limite ou mélancoliques. Il y avait aussi l'idée romaine que chacun ou chaque homme a un genius. En fait, c'est exactement le même mot de génie ou genius en anglais. Mais un génie dans ce sens-là était un esprit d'ange, une sorte d'ange gardien, un ange tutélaire qui nous suivait et qui nous gardait et aussi qui nous apprend des choses de le monde du ciel, des dieux, etc. et nous porte des messages de nous jusqu'au ciel.
Mais il faudra attendre néanmoins longtemps, l'époque moderne, pour que le mot change de sens et vienne s'appliquer à des hommes.
Tout à fait, tout à fait. Et en fait, nous avons des exemples de la fin du XVIIe siècle, mais c'était surtout dans le siècle Lumière du XVIIIe siècle qu'on parlait de un génie comme une personne, un être. En fait, avant, on avait un génie pour quelque chose, un génie pour le poésie, etc. Mais être un génie, un nouvel type d'homme, de créateur, de visionnaire, et ça date du XVIIIe siècle.
Alors la question qui se pose à l'historien des idées que vous êtes, c'est comment ça se produit,
oui,
et pourquoi ça se produit. Et là, c'est là tout l'apport de votre enquête historique et qui prend son élan, en quelque sorte, depuis l'Antiquité et qui lui permet peut-être de formuler les hypothèses que vous allez vérifier du pourquoi et du comment, donc de la naissance des génies modernes. Évidemment, d'autres que vous ont proposé au préalable des réponses à ces questions, mais elles vous semblaient insuffisantes, elles vous semblaient caricaturales, parfois. Et vous êtes allé les chercher dans deux directions, ces explications. D'une part, ce que vous appelez le retrait de Dieu, et vous allez nous expliquer ce que vous entendez par là, ce qui se passe à ce moment et qui crée un espace, au fond, pour l'avènement de l'idée moderne de génie. Et d'autre part, la passion pour l'égalité, la puissance de cette idée égalitaire qui est associée évidemment à la philosophie des Lumières et qui fera par contraste en quelque sorte ressortir l'idée même de génie d'Harry Macmillan.
Oui, en fait, vous parlez de l'égalité et c'est un paradoxe assez frappant que le même siècle qui donne naissance à l'idée du génie comme grande figure, comme exception humaine, c'est le même siècle qui donne naissance à l'idée d'égalité. Et moi, je suis ce paradoxe et ce conflit entre les deux idées de le 18e siècle jusqu'au 20e siècle. Et je crois qu'il y a un dialectique assez fort entre les deux idées. Vous avez aussi...
Pour la poser de façon très, très frappante, on peut se dire qu'est-ce que c'est que cet endroit que le Panthéon, par exemple, qui s'inscrit dans la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, et qui est dédié aux grands hommes. Ils seraient plus égaux que les autres.
Oui, en fait, c'est ça, c'est un paradoxe, mais en fait, ça nous ouvre la porte à l'autre idée que je suis, c'est la manière dans laquelle les génies modernes servent en fonction presque religieux. En fait, qu'ils remplacent les saints, qu'ils remplacent les génies antiques, tous les êtres médiateurs qui peuvent nous donner une perspective sur l'univers, porte des messages, etc.
Au fond, ce bâtiment, le Panthéon, renferme à lui seul toute la problématique, puisque c'est une ancienne église qui n'est plus une église, qui est un bâtiment de la République et qui célèbre donc l'égalité comme formule de la République et en même temps est consacrée aux grands hommes. On y trouve tout contenu, au fond, de ce qui se passe.
Absolument. En fait, pendant la Révolution, Sylvain Maréchal a proposé que dans le calendrier révolutionnaire, il serait un fête du génie à la fin de l'année.
Oui, dans ces jours supplémentaires,
exactement.
Ces cinq jours. Mais c'est Robespierre qui s'y est opposé.
Oui. En fait, et Robespierre avait raison, il me semble. Qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Il demande une religion des grands hommes dans une république. Non, il faut traiter tous les hommes comme égaux. Et donc, c'est cette tension-là qui joue à travers un siècle, en fait, jusqu'au 20e.
Alors, on a parlé de l'égalité, mais l'autre dimension, c'est ce que vous appelez le retrait de Dieu. C'est-à-dire que vous le présentez comme ça, au fond. La première fois dans l'histoire de l'humanité, qu'il n'y a plus de médiation entre les dieux et les hommes. Que finalement, tous ceux qui jouaient ce rôle de go-between entre les humains et les dieux, les dieux ont disparu, alors ça laisse une place dans laquelle on s'engouffre, au fond, l'idée moderne de génie.
Exactement. En fait, la phrase « le retrait de Dieu », c'est d'après Marcel Gauchet et d'après Max Weber. Mais oui, en fait, il y a cet espace. Et l'exemple de Shakespeare est très bon dans cela, parce que Shakespeare devient le génie anglais au XVIIIe siècle. D'un côté, il est l'exception par excellence. Il est unique. Il n'y a pas d'autre Shakespeare. Mais Au même temps, il incarne le génie anglais, en fait l'esprit du peuple. Il est à la fois universel et à la fois l'exception, comme les sangs. Et en fait, il y a des autres qui servent cette fonction-là. Je parle de Napoléon chez les Français, par exemple, Goethe chez les Allemands. Et en fait, ces gens-là, les gens croient qu'ils peuvent exprimer les désirs du peuple, incarner la volonté nationale et servent comme un go-between, comme vous avez dit, entre les gens ici-bas et l'universel, le ciel, le mystique, la vérité.
Ce qui est frappant, en vous lisant, c'est de découvrir au fond que les premiers qui ont commencé à écrire sur ce retrait de Dieu, au fond, et sur le nouvel arrangement entre le politique et le théologique, à savoir les philosophes politiques comme Hobbes ou Locke, ouais, étaient très critiques face à la possibilité que quelque chose comme le génie vienne prendre la place de ce qui servait d'intermédiaire entre les dieux et les hommes. Alors que, un peu plus tard, les grands philosophes des Lumières français, et Rousseau et Diderot en particulier, eux n'auront pas le même scrupule, la même gêne, le même problème vis-à-vis de l'idée moderne de génie.
Oui, tout à fait. En fait, Locke et Hobbes étaient en train de critiquer des idées chrétiennes qui a vu le homme de génie, si, entre guillemets, si on veut dire ça, comme une figure d'inspiration de l'incarnation des idées religieuses. Mais comme vous dites, ça change pendant le XVIIIe siècle. Il y a bien sûr des gens comme Condillac ici en France, qui était un suivant de Locke, qui croyait que le génie n'était pas du tout magique, n'était pas du tout religieux, si vous voulez, mais que c'était simplement le résultat de la formation. Ouais. Que les idées, en fait, chez Locke, sont pas du innées, mais on a cette tableau blanc. En fait, c'est quoi le mot en français? Le tabula rasa.
Table rase.
Ouais, table rase. Et en fait, les idées sont imprimées sur nous. Alors, le génie devient un résultat de l'expérience et de l'éducation, etc. Je suis en fait plus ou moins d'accord avec cette idée. Mais ce qui se passe au 18e, c'est que cette idée-là est niée. Et comme vous dites, chez Rousseau à la fin du siècle, chez Diderot, il y a une autre idée, que le génie est inné et en fait mystérieux. C'est très difficile à expliquer. Et cette idée-là est moi je dirais, plus fort à l'étranger qu'en France, surtout en Allemagne.
Alors il y a entre deux chapitres de votre livre une parenthèse sur Benjamin Franklin qui est assez intéressante parce qu'elle nous permet de comprendre, et c'est un clin d'œil aussi au travail d'Antoine Lilti sur la célébrité, sur l'avènement de ce qu'on appellera plus tard les people. Benjamin Franklin est sidéré au fond par l'image publique qui est la sienne, célébrée dans la France de façon excessive même à ses yeux.
Et bon oui, et il savait le jouer. Oui, il me semble. En fait, Benjamin Franklin n'était pas considéré comme génie aux États-Unis, mais surtout en France, il était célébré. Quand il est mort, Mirabeau dit à l'Assemblée nationale que le grand génie qui a créé lui-même la Révolution américaine est mort. Et il était aussi un père de la Révolution française dans cette unité des combatteurs pour la liberté. Et oui, je parle en fait de la culte de Franklin qui l'attribue un pouvoir énorme. C'est un homme comme Prométhée qui pouvait tirer le lightning du ciel, qui avait des grands pouvoirs. C'est amusant. Et Franklin a dit lui-même qu'il était idolisé, mais c'est un jeu de mots en anglais parce que doll, ça veut dire poupée. Donc, an idol. Et en fait, dans l'époque, il y avait des petites poupées de Franklin et aussi son visage dans n'importe quoi, les plats, et etc. C'était assez impressionnant.
Vous arrêtez un moment aussi sur l'un de ceux qui finalement a proposé une lecture sociologique critique de ce phénomène des génies qui est Zilzel. Edgar Zilzel qui en dès 1918 au fond propose une lecture très très critique de l'adoration de ces génies. Vous citez Zilzel, nous adorons les reliques de nos grands hommes, leurs autographes et leurs mèches de cheveux, leurs stylos plumes et leurs tabatières comme l'Église catholique adore les ossements, les vêtements et les objets des saints. C'est assez troublant de lire ça, publié la même année que Lénine va réagir très très vivement contre des alors qu'il a failli mourir, victime d'un attentat, contre des textes qui le présentent en héros, en disant je pensais qu'on était là pour en finir avec les héros. Donc il y a cette tension entre ceux qui portent les idées progressistes et puis cette religion des génies qui semble occuper tout l'espace politique et l'espace social progressivement.
Oui, tout à fait. En fait, Lénine est un bel exemple parce que même s'il a critiqué, comme Marx, cette culte de génie, tout d'un coup, il est mort et voilà, il devient saint. Oui, il garde son cerveau et son corps et il est, oui, fêté comme un prophète. Trotsky dira qu'il n'y a qu'un Lénine chaque deux siècles, en fait. Un homme avec un pouvoir incroyable. Mais Zilzel est un homme très important dans l'histoire, en fait, et il était autrichien. Et ce livre que vous venez de citer s'appelle Genie Religion, auf Deutsch, la religion de génie. Et comme vous avez dit, c'est un critique de la culte de génie, surtout en Autriche et en Allemagne. Et j'essaie de montrer dans le livre que le religion de génie devient le plus fort dans les pays en Allemagne, en Autriche, et ça pose un problème parce qu'en fait les gens, les génies, les grands génies sont traités comme des prophètes, des gens qui peuvent racheter les hommes, qui peuvent voir l'avenir, et ça leur donne un pouvoir qui pose des problèmes. Et Zilzel a vu ça, il y a des autres sociologues qui parlent de ça au début du XXe siècle.
Alors là, on a fait un saut dans l'histoire parce qu'on est passé de l'époque moderne au début du XXe siècle, mais entre-temps, il y a toute la période romantique à laquelle vous consacrez aussi un chapitre qui va s'employer à produire une des versions aussi des génies, à entretenir cette idée de génie de façon extraordinaire. Enfin, à la fois vous revenez sur les grands écrivains anglais qui vont incarner ça, mais aussi évidemment dans le monde allemand où c'est très très fort. Dan McMahon.
Oui, absolument. Il me semble qu'en fait, chez les romantiques, ils ont exagéré les idées qui étaient déjà là pendant les Lumières. Et en fait, encore, il donne au génie un pouvoir incroyable. En fait, le génie est comme Shelley a dit très bien, unacknowledged legislator of the world. Oui. En fait, en français, ça veut dire que...
Ça veut dire que le législateur non officiel,
ouais,
du monde. C'est-à-dire que le génie en vient à être celui qui fait les règles de l'art, pour reprendre l'expression de Kant
sur laquelle
Bourdieu a travaillé.
Même s'il est écarté du monde, oui. En fait, il y a chez les romantiques aussi un culte du martyr. Lamartine dit que tout génie est martyr. Et en fait, c'est quelqu'un qui souffre pour l'art, mais pour racheter les hommes, oui, pour régénérer le peuple. Et en fait, pour leur donner des lois et aussi de casser les lois. En fait, c'est-à-dire de détruire le vieux pour créer le nouvel. Donc il y a un culte de créateurs dans tous les domaines, pas simplement artistique. Les romantiques, par exemple, parlent de Napoléon comme un poète de la guerre, un homme d'État qui était en même fois artiste, mais qui créait avec le sang et le corps.
Alors, il y a des bons génies et il y a des mauvais génies. Et dans votre livre, Fureur divine, Darren McMahon, vous mettez en scène un affrontement qui est l'affrontement suprême au XXe siècle entre les deux figures du génie et qui se finira fort heureusement du bon côté. C'est le combat qui oppose Einstein, dont je citais le nom en commençant cette émission, qui va être l'incarnation du génie absolu, à une autre figure de génie maléfique, celle-là, celle d'Adolf Hitler, sur laquelle vous vous arrêtez aussi beaucoup dans votre livre.
Oui, tout à fait. En fait, les liens avec le mal et les génies sont très, très vieux. Ça date de l'Antiquité. Mais dans la période moderne aussi, il y a cette idée de Faust, hein, quelqu'un qui est tenté par le désir de penser comme Dieu, mais en fait qui va dans l'autre sens. Et chez la romantique, cette idée est forte aussi. Donc, il y a une tradition du génie comme génie du mal. Et je parle beaucoup de Hitler parce qu'en fait, il savait jouer le culte de génie chez les Allemandes. Il l'utilise très consciemment. Il se présente comme génie dans Mein Kampf. Et en fait, les Allemands le reçoivent comme un génie qui peut sauver le monde, qui peut régénérer le peuple. Si vous avez vu, par exemple, le film très connu de Leni Riefenstahl, Le Triomphe de la Volonté, ça commence avec une image de Hitler descendant du ciel et il arrive au milieu du peuple. Ouais, il devient le peuple, le folk. Et en fait, il part pour le peuple. Et il utilise en fait le culte du génie de supporter son pouvoir, oui, de légitimer son pouvoir. Oui. Soutenir, oui, merci. Et puis, en fait, il considère Einstein comme un danger. Pourquoi ? Parce qu'il incarne lui-même l'opposé, le génie juif pour lui. Il y a une critique, longue critique contre les juifs, bien sûr, mais aussi au niveau du génie. Parce qu'en fait, les juifs gagnent beaucoup de prix Nobel et dans les examens QI, en fait, et ils ont des niveaux assez élevés, donc c'est un problème pour les nazis, et ils essaient de détruire sa réputation, etc., la science de Einstein, c'est la science juive, etc., mais finalement, ils n'ont pas de succès.
D'ailleurs, il y a un lien, vous dites, entre culte du génie et antisémitisme.
Oui.
Dans les années 30, dans les années 20, dans les années 30, on voit ce lien assez étroit.
Oui, absolument. On n'a pas le temps de parler, mais il y a une opposition assez frappante qui date du 18e siècle entre le talent et le génie. Le talent, c'est simplement l'habilité de faire quelque chose assez bon, mais pas vraiment créer, pas vraiment changer le monde, etc. Et en fait, les nazis utilisent cette rhétorique-là pour décrire que, bon, il y a des juifs qui peuvent jouer le piano assez bien, mais pas créé comme Wagner, par exemple. Et donc, il y a une critique là. Et aussi, l'idée que les Juifs nient l'esprit créatrice des Allemandes. Et donc, il faut le détruire pour pouvoir livrer le génie allemand. Donc, c'est une idée dégueulasse, bien sûr, mais et voilà.
Mais qui est présente dans cette idéologie. Et d'ailleurs, vous dites les deux grandes religions politiques du XXe siècle, le nazisme de l'autre côté, le stalinisme, vont être très liés à cette politique du génie, au fond.
Sens-là, oui, en fait, il est aussi assez frappant que, même si Marx lui-même critique beaucoup le culte du génie, le moment qu'il est mort, Engels le décrit comme un génie. Engels lui-même, il dit, n'avait que du talent, mais Marx était le grand génie. Il y a un culte du génie de Marx, et c'est un culte que Lénine et beaucoup plus Staline utilisent pour renforcer leur pouvoir, et c'est très frappant, oui. Et donc, dans ce sens, il y a bien sûr un rapport.
Alors, cette question de savoir pourquoi certaines personnes sont des génies, évidemment, va occuper beaucoup de gens depuis toujours, oui. Au fond, et en prenant parfois des formes assez étranges, parce que avec vous, je vais pas dire on va visiter l'Institut du cerveau, puisque vous n'avez pas eu le droit d'y aller, on apprend que donc à Moscou, il y a cet endroit où est conservé le cerveau de Lénine en particulier, où on mettra d'autres cerveaux aussi, de joueurs d'échecs, enfin, il y a cette fascination pour l'organe cérébral qui évidemment est associé au génie et l'idée que voilà, ces cerveaux seraient différents et qu'il faudrait essayer de comprendre pourquoi, y compris de façon scientifique, médicale. Et d'ailleurs, on va trouver le pendant aux États-Unis, puisqu'on apprend aussi en vous lisant que un chirurgien a subtilisé le cerveau d'Einstein à sa mort pour en faire une autopsie, et qu'aujourd'hui d'ailleurs on peut télécharger le cerveau d'Einstein sur son application, sur son smartphone, oui, oui. En payant pour avoir avec 300 photos une vue oui. Sur son téléphone face, oui. du génie, une objectivation du génie oui. d'Einstein. C'est assez extraordinaire quand même.
Oui, tout à fait. Donc, beaucoup de choses à dire. Il y avait des collections comme ça, des collections de cerveaux, des crânes, partout, surtout ici en France, par Broca. Broca a créé une grande collection. Mais en fait, ça pose la question, qu'est-ce que c'est le génie? Et dès que les gens commençaient à croire que le génie est complètement inné, il faut le trouver. Donc, depuis la fin du XVIIIe siècle, il y a des grands efforts que j'appelle généalogie, entre guillemets, la science de génie, qui était très fort au XIXe, au début du XXe, en commençant par regarder le génie dans les visages. Les physionomistes ont cherché le génie dans les yeux, dans les visages. Les crâniologistes ont cherché dans la taille de crâne, etc. Ils ont arrivé à étudier le cerveau. Mais en fait, il y a une réification du génie. L'idée presque très naïf, il me semble, de trouver le génie dans certains points. Et ça continue aujourd'hui, comme vous avez dit. En fait, il y a encore des efforts pour trouver le génie dans le cerveau, le petit morceau du cerveau d'Einstein.
Vous dites, à un moment dans votre livre, au fond, que Einstein est peut-être l'incarnation absolue du génie et en même temps sa dernière incarnation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus tant le génie qui est célébré de la même façon religieuse par nos sociétés, mais quelque chose qui l'aurait remplacé, une autre forme de célébrité qu'on pourrait dire le people et qui évidemment, là, n'a plus beaucoup de lien avec la mesure de l'intelligence par le QI d'Aaron McMahon.
Oui, en fait, aujourd'hui, tout le monde est génie. Vous êtes génie. Même si vous ne savez pas. Et vous pouvez lire des textes qui expliquent comment être un génie, etc. Nous avons démocratisé l'idée du génie. Et en fait, ça veut dire qu'un génie comme Einstein, qui était considéré comme quelqu'un qui pouvait lire le cerveau de Dieu, qui pouvait percer le voile de l'univers, nous n'avons pas le même respect pour ces grands génies-là. Einstein, dans ce sens-là, était le dernier génie. En fait, par rapport à la culture, la religion du génie qui date du XVIIIe siècle.
Merci beaucoup, Darren McMahon. Vous avez donc profité de votre voyage en France pour passer la suite dans les idées. Vous êtes professeur d'histoire européenne à Dartmouth College aux États-Unis. Vous publiez donc Fureur divine, une histoire du génie qui paraît aux éditions Fayard. On trouve les références sur la page de la suite dans les idées sur le site de France Culture, page où vous pouvez réécouter l'émission. Vous pouvez également vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché d'émission Cyril Baer, à la technique aujourd'hui Pascal Bénard et à la réalisation Jean-Christophe Francis. C'est un autre génie que l'on retrouve pour la conversation scientifique dans quelques instants sur France Culture, Étienne Klein.